Coco le têtu. Il y avait une fois chez un bon fermier un mulet que l'on appelait Coco. Tant qu'il fut jeune et chargé d'amuser les enfants dans la cour, il passa son temps agréablement et porta dignement ce nom de Coco, qui est celui de toutes les bonnes bêtes à quatre pattes, âne, cheval ou mulet. C'est d'ailleurs un nom d'amitié qui se donne même un peu trop à tout le monde, surtout aux enfants. Il y répondait toujours avec plaisir, principalement quand c'était pour venir chercher du pain. Il n'en était pas de même quand on voulait le faire entrer à l'écurie ou le mener quelque part où il ne lui plaisait pas d'aller pour le moment. Il se débattait comme un diable, tirait en arrière, si l'on voulait le faire aller en avant, et il finit par acquérir de la sorte le surnom de « le têtu », qu'il s'attachait chaque jour à justifier par quelques lubies nouvelles. Coco le têtu, qui s'obstinait à rester dehors quand il fallait rentrer, et dedans quand il fallait sortir, finit de guerre lasse par être laissé dans son pré par tous les temps. Ce n'était pas tous les jours drôle. On venait le prendre quand on avait besoin de lui. L'époque étant venue de commencer à l'atteler, on le mit devant la vieille jument Blanchette, qui était un vieux serviteur de la maison, mais qui commençait à se fatiguer. On lui donna donc Coco pour l'aider. Coco le têtu, qu'il était décidément, se fit un devoir d'aller à gauche quand il fallait aller à droite, et réciproquement. Il avait même la malice de faire approcher des fossés la vieille Blanchette, qui avait la vue basse. Elle finit par y tomber un jour, avec la carriole. Le maître qui lisait son journal dans la voiture faillit se rompre le cou. S'apercevant à l'air malin de Coco que s'il en était tombé dans le fossé, c'est qu'il l'avait bien voulu et cherché, et que c'était lui qui était cause de l'accident, il lui appliqua une de ces volées consciencieuses qui marquent sur le dos des mulets et même sur tous les dos. Le lendemain, le croyant guéri par cette application salutaire, il entra dans son écurie avec l'intention de lui pardonner et aussi de le remettre à l'ouvrage, pensant qu'il avait réfléchi et avait peut-être profité de la correction. Il était prêt à oublier sa colère de la veille et le tour qu'on lui avait joué, étant bonhomme dans le fond. Mais Coco, qui avait de la rancune, et le dos encore tout meurtri des coups qu'il avait reçus, ne vit pas plutôt la porte ouverte qu'il se jeta sur son maître, les dents en avant. Celui-ci, pris de peur, tourna le dos, et Coco, mordant à même l'ennemi en fuite, le tint un moment suspendu dans une situation déplaisante pour un homme, qui était important dans sa commune, et même pour toute autre personne. Il n'eut que le temps de se sauver, fort endommagé. Ce dernier exploit en dégoûta son maître qui le conduisit à la foire séance tenante. Il fut vendu au brigadier Bombardeau, du train des équipages dont il était cantinier. Coco, qui était gras, et qui avait en somme une assez jolie tournure de mulet, fut d'abord destiné à être porteur, c'est-à-dire à recevoir un cavalier sur son dos, ce qui est un poste d'honneur, pour les mulets, comme chacun sait, et dont ils ne font généralement pas cas. Le premier jour, Coco se laissa monter. On allait au pas. La voiture était vide. Il ne voyait pas grand inconvénient à obéir. Du reste, le brigadier Bombardeau, à deux pas de lui, monté sur son grand cheval noir, ne le quittait pas des yeux, et l'uniforme en imposait à notre ami, comme à tout conscrit. À l'arrivée, cependant, ne sachant que faire, tandis qu'on chargeait sa voiture, ce qui était l'affaire de son cavalier et non la sienne, il remarqua que le cheval du brigadier Bombardeau avait une bien belle croupe, et que ce serait peut-être drôle de lui faire ce qu'il avait fait à son ancien maître, qui sautait si drôlement ce jour-là. Aussitôt pensé, aussitôt fait, et le cheval de se cabrer tout droit, puis de ruer à hauteur de plafond, qu'atteignit aussi le brigadier Bombardeau. Seulement le brigadier retomba sur le nez. Le brigadier Bombardeau, qui avait 25 ans de service et n'avait jamais vidé les arçons devant ses inférieurs, se releva furieux et fit donner une correction à Coco, qui pour se venger jeta son cavalier par terre au retour. Le brigadier Bombardeau, résolu à punir l'insubordination partout où elle se produisait, fit sceller Coco aussitôt après sa rentrée au quartier, et l'ayant fait tenir solidement, il s'élança légèrement sur son dos. Coco, qui n'avait jamais senti un pareil poids sur ses reins, plia jusqu'à terre. Puis, se relevant aussitôt, il essaya de se débarrasser de son cavalier en ruant et en se cabrant. Mais le brigadier Bombardeau était solide. Il n'était tombé que par surprise. Il avait sa revanche à prendre. Coco essaya de lui mordre les jambes, mais elles étaient dures et garnies de grandes bottes, et surtout de longs éperons fort piquants. Il finit par partir ventre à terre, espérant toujours se débarrasser de son cavalier. Après avoir fait 2 lieues de ce train, Coco s'arrêta éreinté, et Bombardeau lui ayant tourné la tête du côté de la caserne, il rentra au pas, soumis, suant et résolu à obéir désormais à un maître aussi pesant et sévère. Il l'avait d'ailleurs provoqué et s'était attiré la correction qu'il venait de recevoir. Il revint donc à l'écurie souple, timide, désireux seulement de dormir et de se gratter les flancs que les éperons de Bombardeau avaient pas mal entamés. Coco le Têtu parut donc définitivement dompté. Le brigadier Bombardeau en fit présent à sa femme pour mener la voiture de la cantine. La tâche était lourde. Les soldats aimaient le vin. Il en fallait toujours beaucoup, et un peu d'eau aussi par-dessus le marché. Coco rechignait quelquefois, mais le souvenir des mains du terrible brigadier le retenait dans le devoir. Du reste, celle de sa femme n'était pas inactive et maniait avec aisance un gros bâton qui servait de fouet à Madame Bombardeau. Il s'y habituait cependant tout doucement et aurait vécu heureux de longs jours si un retour à ses anciennes habitudes n'avait causé sa perte. Au passage d'une rivière qui grossissait, Coco, qui avait eu toutes les peines du monde à y entrer, refusa de faire un pas en avant, par méfiance, et fut noyé par les eaux débordées, malgré tous les efforts. Il justifia ainsi une dernière fois son nom de Coco le Têtu.